On accueille, comme chaque mois, Michel Favret. Michel, bonjour, bienvenue.
Bonjour Joël.
De radio. Alors, on va parler de la chronique Astro numéro 25. Et juste avant de dire quelques mots sur le coup de gueule hein, par rapport à l'actu, rappelez-nous, hein, bien sûr, l'association que vous représentez ici, Michel. Hein. C'est pas de la publicité, mais c'est histoire de faire un petit clin d'œil également à cette association dans laquelle vous aurez, je crois, depuis combien d'années déjà, on en parlait
c'est
tout à
l'heure. On commence la neuvième saison. Là.
Bon, voilà.
On a commencé à l'automne 2011.
Allez, rappelez-nous donc en quelques mots, Constellation et Galaxie.
Alors Constellation et Galaxie, hein, tout au pluriel, c'est
oui,
une petite association par la taille située en Dordogne, dans la région de Lucidan, et qui a la particularité de posséder un planétarium itinérant. Donc on va dans les écoles, les collèges, les lycées pour montrer le ciel et l'expliquer aux élèves. C'est d'ailleurs en plein la période, là, après la rentrée, une fois que les professeurs ont un petit peu digéré tout le démarrage de l'année, qu'on commence à avoir des demandes pour intervenir ici et là, dont Bordeaux, hein, puisqu'on a une zone qui est très très large, qui va en gros de Bordeaux à Tulle et de Angoulême à Villeneuve-sur-Lot. Alors à côté de ça, on a d'autres opérations, en particulier des prêts d'exposition, mais c'est uniquement en Dordogne. Et d'autres ateliers, on va dire. Mais le grand succès, c'est le planétarium, parce que comme on va, je pense, en reparler tout de suite, Bordeaux est une des rares villes de France où il n'y en a pas. Donc il y a possibilité pour nous de pallier un petit peu cette absence.
Voilà, c'est pour ça, c'est bien d'en parler, puis bien sûr de repréciser qui vous êtes, même si vous êtes bien connu maintenant au de radio. Voilà, 25e chronique. Alors on va rentrer, si vous voulez bien, dans l'actu. Et justement, voilà, parce que vous venez de Dordogne, mais vous êtes vraiment emprunt sur... vous avez cette notion du territoire. Justement, quand on évoque l'observatoire de Florac, ça résonne...
Ben, ça résonne difficilement en ce moment.
Tout à fait.
Hein, parce que j'ai déjà évoqué ici à plusieurs reprises ce site, hein, qui m'intéresse à plusieurs titres, notamment parce que je l'ai visité et que j'ai pu apprécier les instruments et les bâtiments historiques qu'il renferme, mais aussi dans le cadre d'une autre démarche militante, si je peux dire, de Constellations et Galaxies, pour la construction d'un planétarium à Bordeaux. Pour nous, l'observatoire, ce serait le site idéal, hein, un écrin intéressant pour son installation, parce que ça permettrait à la fois de montrer au public les objets du ciel avec le planétarium et aussi les instruments qui permettent de les étudier. Alors, je rappelle aux auditeurs que l'agglomération bordelaise, hein, la sixième de France par la population, d'après ce que j'ai pu lire, et qui se décrit comme cité de l'aéronautique et de l'espace, hein, je cite exactement, sur tous les panneaux autoroutiers quand on approche, est la seule grande ville en France à ne pas posséder ce type d'équipement éducatif dans le domaine de la culture scientifique. Alors, l'actualité, hein, j'ai appris il y a peu de temps la situation. Comme c'était prévu depuis des années, les enseignants-chercheurs de l'Observatoire ont été transférés sur le site universitaire de Talence, et cela s'est concrétisé ce printemps avec leur déménagement dans des nouveaux locaux. Le site de Florac est donc pratiquement vide et inutilisé depuis cet été. En principe, le relais aurait dû être passé à Aérocampus. C'est l'exploitant qui avait choisi la région prête à investir une vingtaine de millions d'euros pour la reconversion du site, car cette structure a déjà réussi une opération similaire sur le site de Latraine, abandonné par l'armée de l'air. Le projet comprendrait l'implantation d'activités dédiées au spatial, notamment l'exploitation des images satellitaires, mais aussi un volet d'ouverture au public pour la visite du patrimoine et peut-être le fameux planétarium que nous appelons de nos voeux. Sauf que ce beau projet est totalement bloqué par l'université, semble-t-il parce qu'elle espère réaliser une bonne opération foncière à la revente de ce domaine, quand elle en sera devenue propriétaire dans le cadre des dispositions prévues par la loi d'autonomie des universités de 2007. C'est du moins ce que j'ai pu lire dans un article de Sud-Ouest au début de l'été. Même si j'ai des doutes sur la valeur réelle de ce grand parc vert surplombant la ville au-dessus des coteaux de la Garonne, car le classement des bâtiments historiques par la DRAC en 2010 limite et complique fortement tous les travaux et constructions qui peuvent y être réalisés. Mais quels que soient les intérêts des uns et des autres et la responsabilité du blocage actuel, le site est dans une situation critique tant qu'il n'est pas reconverti dans une autre activité qui permettrait d'y maintenir du personnel en permanence. Il sera trop tard pour verser des larmes de crocodile quand les coupoles auront été taguées, les bâtiments historiques dégradés ou occupés illégalement par des squatteurs. Pour ma part, de ma lointaine campagne périgordine, comme on le disait, je n'ai appris cette négligence qu'à la mi-septembre, mais j'essaie de mobiliser les clubs d'astronomie de toute la région pour qu'ils s'expriment et qu'ils expriment leur intérêt pour ce site et participent d'une manière ou d'une autre à sa préservation. Je ne doute pas que le même élan anime aussi les riverains du site et probablement d'autres associations concernées par le problème. Je pense notamment aux associations de protection de la nature qui souhaiteraient préserver ce parc vert des Hauts-de-Garonne et où vit une bande de chevreuils souvent observée par les visiteurs. À ce stade, je ne sais pas s'il se mettra en place un collectif ou une association de sauvegarde du site, mais je compte bien participer aux opérations qui viseront à attirer l'attention de l'opinion publique sur cet abandon scandaleux, comme des manifestations sur place ou des pétitions, par exemple. Et j'espère que nos auditeurs, surtout ceux de la rive droite, de Florac, Senon ou Lormont, seront nombreux à soutenir ces actions, car le devenir de l'Observatoire les concerne au premier chef, notamment en tant que voisin et futur utilisateur du site quand il sera ouvert au public.
Allez, on va revenir sur l'actu, mais on comprend bien ce coup de gueule, bien sûr, parce que étant sur la rive droite, voilà, on a eu souvent accès lors des journées portes ouvertes, mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler. Allez, concernant l'actualité, vous allez nous reparler de Gaïa, la sonde de Gaïa.
Voilà, c'est un peu de l'actualité parce que le 14 septembre, l'ESA, hein, l'Agence spatiale européenne, a publié un résultat important de la mission Gaïa avec la cartographie de plus de 1 milliard d'étoiles de notre voisinage dans la Voie lactée. Et je trouve toujours intéressant de souligner les succès de l'Europe dans le domaine spatial, car elle a parfois un peu de mal à se faire entendre à côté du rouleau compresseur médiatique qu'est la NASA. Alors, j'en ai pas encore parlé de Gaïa, en fait, ici, je crois, et du coup, je fais un petit peu les présentations. Alors, le terme Gaïa est l'acronyme de Global Astrometric Interferometer for Astrophysics. C'est un double télescope spatial d'à peu près 2 tonnes, lancé de Kourou le 19 décembre 2013 par une fusée Soyouz, et en janvier 2014, elle a rejoint sa destination, un des points de Lagrange. J'ai déjà parlé ici de ces points où l'attraction de la Terre et du Soleil se compense, ce qui permet d'y laisser une sonde dans une position stationnaire, pour nous sans aucune dépense d'énergie. Sa mission, c'est de l'astrométrie, c'est-à-dire de mesurer avec précision la position des objets dans le ciel. Les étoiles, les galaxies, les planètes et leurs satellites, des astéroïdes, des comètes. L'intérêt d'avoir une carte très précise des objets du ciel, c'est dans le futur de pouvoir repérer très vite un nouvel objet qui n'est pas cartographié, donc peut-être un nouvel astéroïde inconnu ou une supernova qui vient d'exploser. Mais c'est aussi la possibilité d'étudier tous les mouvements de ces objets. Par exemple, les étoiles qui se déplacent très lentement pour nous vu les distances énormes qui nous séparent, et donc pour leur mouvement, il faut soit les observer sur de très longues périodes, de plusieurs années ou dizaines d'années, soit faire des mesures extrêmement précises. On pourra aussi détecter leurs variations dans le temps, par exemple une étoile dont la lumière faiblit à intervalles réguliers, ce qui pourrait correspondre au transit d'une exoplanète qui orbite autour d'elle. Car Gaïa mesure aussi la luminosité des objets détectés et leur vitesse de déplacement radial, c'est-à-dire le fait qu'elle avance ou recule par rapport à nous. Pour donner une idée de ce qu'apporte Gaïa dans le domaine de l'astrométrie, on peut comparer ses résultats avec ceux de la précédente mission analogue qui s'appelait Hipparcos, qui était déjà une mission européenne mais active dans les années 90. En 7 ans, Hipparcos avait mesuré environ 1 million d'étoiles jusqu'à la magnitude 11, j'expliquerai tout ça après, avec une précision de 20 à 30 millisecondes d'arc. Gaïa, à ce jour, a déjà mesuré plus de 1 milliard d'étoiles, c'est-à-dire 1000 fois plus que Hipparcos, jusqu'à la magnitude 20, c'est-à-dire des étoiles jusqu'à 10 000 fois moins lumineuses que celles d'Hipparcos, avec une précision d'environ 2 ou 3 millisecondes d'arc, soit 10 fois plus précisément qu'Hipparcos. Alors je fais une petite explication sur cette précision. Comme les heures se divisent en minutes et en secondes, les angles sont mesurés en degrés. Je rappelle aux auditeurs qui veulent prendre des repères dans le ciel que la largeur d'un doigt bras tendu fait à peu près 2 degrés. Donc ces degrés, on les divise en 60 minutes d'arc est divisée elle-même en 60 secondes d'arc. Il y a donc 3600 secondes d'arc dans un degré, comme les 3600 secondes dans une heure. Pour se représenter une seconde d'arc, je ne peux prendre des exemples que dans l'espace, tellement c'est des angles qui sont tout petits. Si vous regardez Mars dans le ciel ces jours-ci, il fait dans les 9 secondes d'arc de diamètre. Et comme je l'ai dit juste avant, Gaïa atteint des précisions de 2 millisecondes d'arc, soit 0,002 secondes d'arc. Si on essayait de convertir en degrés, ça ferait 0,60 et un 5 à la fin en degrés.
Alors Michel, vous nous parlez d'angle, mais la position des étoiles, c'est aussi leur distance.
Alors effectivement, Gaïa mesure la position de l'objet, le plus souvent une étoile, dans le ciel, c'est-à-dire ses coordonnées sur ce qu'on appelle couramment la voûte céleste, donc une représentation en deux dimensions, un peu comme la latitude et la longitude d'un site à la surface de la Terre. Il manque la profondeur, c'est-à-dire la distance qui nous sépare de ces étoiles. Mais en fait, on peut la mesurer également en utilisant la méthode qu'on appelle la méthode de la parallaxe. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, je propose aux éditeurs de faire une petite expérience très simple. En fermant l'œil droit, ils vont viser avec leur pouce bras tendu un repère dans le paysage par la fenêtre. Par exemple, la fenêtre d'un immeuble voisin, un lampadaire, une antenne, ou même un objet dans la pièce où il se trouve. Ce choix n'a aucune importance. En faisant bien attention de ne pas bouger le bras, ils doivent maintenant fermer l'œil gauche et rouvrir le droit. Ils constateront alors que leur pouce ne vise plus exactement leur paire choisie, mais se trouve un peu décalé sur la gauche, d'autant plus fort que l'objet visé est près. C'est ça qu'on appelle la parallaxe, ce petit décalage, ce petit angle. S'ils pouvaient mesurer l'angle du petit décalage, et en utilisant la géométrie du long triangle constitué par l'objet visé et leurs deux yeux, ils pourraient calculer la distance de l'objet. Cette technique est d'autant plus précise que la base du triangle, ici la distance entre les deux yeux, est grande par rapport à la longueur, c'est-à-dire la distance entre l'observateur et l'objet. Pour les étoiles qui sont très loin de nous, donc un triangle qui serait très 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 long et des angles très petits, on ne peut avoir une bonne évaluation de la distance qu'en utilisant une base très large. Pour la Terre ou un satellite comme Gaïa, la distance maximum utilisable est celle qui sépare notre position à 6 mois d'intervalle, c'est-à-dire quand notre planète se trouve à deux points opposés de son orbite, ce qui représente un écart de l'ordre de 300 millions de kilomètres. La mission Gaïa est encore en train de se poursuivre. Une fois que toutes les mesures auront été faites et répétées au moins 60 fois pour augmenter la précision et que tout aura pu être complètement exploité, hein, parce que c'est des terras et des teraoctets de données, le but, l'objectif est de publier en 2020 un catalogue de plus de 1 milliard d'objets avec des positions d'une précision encore 10 fois meilleure que le résultat intermédiaire présenté ce mois-ci par l'ESA. Alors après tous ces chiffres, je peux proposer aux auditeurs une représentation plus visuelle de ce résultat. L'APOD, hein, Astronomy Picture of the Day, c'est un site de la NASA dont je parle assez souvent et que je consulte moi pratiquement tous les jours, a publié lundi un petit clip vidéo qui simule un vol spatial à grande vitesse qui part de l'extérieur de notre galaxie, la Voie lactée, pour plonger vers le Soleil. Tout le début de la simulation est purement imaginaire car on ne connaît pas exactement la forme de notre galaxie vue de l'extérieur. Mais la fin du voyage, quand on pénètre dans une sorte de boule d'étoiles, est exacte car simulée avec les vraies positions des étoiles autour de notre Soleil, calculées par Gaïa, et quelques-unes sont même étiquetées avec leur nom. On remarquera d'ailleurs que les plus brillantes dans le ciel sont souvent les plus proches de nous. Alors je pense qu'on mettra le site vers cette vidéo sur le lien du site, sur le site web ou le Facebook de Odo Radio.
Voilà, et vous allez nous reparler de l'APOD, hein. Chez nous, on nous envoie des images de Jupiter.
Oui, alors pour les étudiants intéressés par l'espace, je conseille de visiter régulièrement ce site, car il y a chaque jour une belle image du ciel ou de l'espace. Par exemple, dimanche, il y avait un beau portrait de Saturne et de ses anneaux, comme on ne peut pas les voir de la Terre, car prise par la sonde Cassini. Et l'image est accompagnée de son explication par un astronome. Malheureusement, c'est en anglais, hein, puisque c'est un site de la NASA, mais on trouve des sites où c'est traduit en français, parfois avec un léger retard d'un ou deux jours, comme sur Ciel des Hommes, par exemple. L'APOD du 14 septembre montrait deux images de Jupiter parmi les premières transmises par la sonde Juno de la NASA. Leur particularité, c'est qu'elles montrent les pôles sud et nord de la planète géante sous un angle jamais vu jusqu'à présent. Certains auditeurs se souviennent peut-être que j'avais parlé de la sonde Juno dans mes chroniques de juin-juillet, car c'est le 4 juillet qu'elle a été mise en orbite autour de Jupiter, après 5 ans de voyage. J'avais indiqué que son orbite est très particulière car polaire, c'est-à-dire survolant les deux pôles, est très proche car certains survols se feront seulement à 5000 km de la planète. Elle nous donne donc un point de vue tout à fait nouveau sur Jupiter, car toutes les sondes qui l'ont approché jusque-là étaient plus ou moins dans la région équatoriale. Cette sonde a pour objectif, en 2 ans et 37 orbites complètes, d'étudier la gravité, l'atmosphère et le champ magnétique de la planète géante.
Et pour Rosetta, c'est bientôt fini ? Il paraît qu'on a retrouvé Philae, hein.
Voilà. Michel. Alors, dernier épisode du feuilleton Philae. Alors, pas de chance pour moi. C'était une grosse semaine après ma dernière chronique où je m'étais plaint qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité astro. L'ESA a annoncé le 2 septembre qu'elle avait retrouvé Philae sur des photos de la comète Chury prise par Rosetta. Alors, je rappelle aux auditeurs les épisodes précédents. Philae est le petit atterrisseur, hein, pour se donner une idée, c'est à peu près de la taille d'une machine à laver, envoyé par Rosetta pour se poser à la surface de la comète le 14 novembre 2014. Mais au lieu de s'accrocher avec des sortes de harpons, il a rebondi plusieurs fois et s'est retrouvé coincé de travers au pied d'une sorte de falaise, hein, d'après les photos qu'il nous a envoyées, qui lui faisait tellement d'ombre que ses panneaux solaires n'ont jamais pu fonctionner correctement. Pendant les quelques heures où il était encore alimenté par sa batterie, il a pu envoyer quelques photos et des mesures, mais il s'est rapidement endormi. En juin 2015, Rosetta avait reçu un signal faisant penser qu'avec la rotation de la planète, qui font un peu comme des saisons sur Terre, l'éclairage de Philae s'était amélioré et qu'il pourrait de nouveau fonctionner. Mais il n'y a pas eu d'autres liaisons ensuite. L'équipe de la mission avait alors perdu tout espoir de voir réaliser avec succès une partie des opérations prévues à la surface de Chury, mais ils continuaient à essayer de repérer l'engin à la surface pour comprendre ce qui s'était passé lors de l'atterrissage et les différents rebonds imprévus qui avaient eu lieu. Alors, pour donner une idée de la difficulté de la tâche, ça vient à rechercher une machine à laver, hein, comme je l'ai dit, cachée à l'ombre, sur des photos où les plus petits détails, quand Rosetta est le plus près de la comète, sont de l'ordre de 30 cm. Ça veut dire on cherche une silhouette qui représente que quelques pixels sur l'image. Alors, c'est ce qui a été réussi le 2 septembre, où on a reconnu la forme de Philae coincée dans une faille sur une image prise à seulement 2 700 km de la surface. Cela résout l'énigme de l'atterrissage, mais il n'y a aucun espoir de le remettre en route, d'autant que la mission touche à sa fin.
Alors, si j'ai bien compris, Michel, Rosetta, c'est fini ?
Oui, la mission a déjà été prolongée presque d'un an, puisqu'au départ, il était prévu qu'elle se termine fin 2015. En 2016, on a donc complété la mission en prenant le risque de se rapprocher de la comète, jusqu'à environ 2 km, et à l'inverse, en s'éloignant pour étudier sa queue. Mais aujourd'hui, l'observation rapprochée de la comète perd de son intérêt. Tchoury est passé au plus près du Soleil le 13 août 2015, à environ 185 millions de kilomètres. Mais aujourd'hui, elle en est trois fois plus loin, à près de 570 millions de kilomètres. Et avec son éloignement et son refroidissement, son activité a beaucoup diminué. Si la mission se poursuivait, Rosetta manquerait d'énergie pour continuer ses photos et ses mesures, et surtout aurait des difficultés à les transmettre vers la Terre dès le mois d'octobre, car le Soleil se trouvera entre nous à partir du mois d'octobre. Il faudrait la mettre en sommeil de nouveau pour presque 6 ans, si on voulait prolonger, car la comète parcourt son orbite en 6 ans et demi. Donc il faudra pratiquement 6 ans avant qu'elle se rapproche de nouveau du Soleil. On a donc décidé de mettre fin à cette mission d'une manière assez spectaculaire. Après un dernier survol ces jours-ci, la trajectoire de la sonde sera modifiée pour qu'elle commence dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est-à-dire du 29 au 30 septembre, là bientôt, une lente descente vers la surface de la comète où elle s'écrasera. Alors c'est un choc relativement peu violent, hein, car la gravité est faible sur un corps aussi petit qu'une comète, hein, elle fait à peu près dans les 7 km de long par 5 de large, et la vitesse ne sera pas énorme, hein, ce sera dans les 3 km/h à peu près. Mais la sonde est programmée pour s'éteindre dès que le choc se sera produit, car le droit spatial interdit de laisser en service une sonde dont la mission est terminée. Cette chute finale a pour but de faire des photos et des mesures très rapprochées, en ayant pris soin de la diriger vers un endroit particulièrement intéressant de la surface. C'est un puits, hein, on les appelle comme ça, creusé par l'éjection de vapeur et de matière lors de la période active de la comète.
Alors si on est un petit peu optimiste, hein, dirons-nous, la mission n'est pas totalement terminée ?
Alors oui, effectivement, on peut le voir comme ça, parce que Rosetta et Philae ont été équipées toutes deux d'un message destiné à ceux qui les retrouveraient. Alors peut-être dans des milliers ou des millions d'années, hein, peut-être nos très lointains descendants, ou pourquoi pas rêver, une civilisation extraterrestre en visite dans le système solaire. Hein, j'avais abordé le sujet d'E.T. Au mois d'août. Alors contrairement aux fameuses plaques posées sur les sondes Voyager, il s'agit d'un disque inaltérable en nickel, sur lequel sont gravés des messages dans un millier de langues différentes. Ce dispositif a été financé par la fondation américaine Long Now Foundation, dont le but est de préserver le souvenir des langues et des cultures à très long terme, au moins 10 000 ans, pour nos descendants. Et contrairement à tous les sites terrestres susceptibles d'être détruits ou endommagés par des catastrophes naturelles ou des catastrophes d'origine humaine, l'espace interplanétaire, froid et stérile, constitue un lieu de stockage beaucoup plus sûr. Alors pour terminer cette rubrique sur une note un peu philosophique, si je peux dire, j'invite les éditeurs à réfléchir à ce paradoxe, un peu comme c'est décrit dans le film IA, intelligence artificielle de Spielberg, avec le petit robot humanoïde David. Il se pourrait bien que dans un très lointain avenir, quand toutes les civilisations humaines auront complètement disparu, ou si on est optimiste, seront parties vers d'autres planètes, les seuls témoignages restants de notre existence seront des machines que nous avons envoyées dans l'espace avec des messages, un peu comme on envoie des bouteilles à la mer en espérant qu'elles seront retrouvées un jour sur un rivage.
Allez, toujours en direct, votre chronique numéro 25, chronique Astro, Michel, et vous allez aborder le sujet et le thème du mois, la conquête spatiale.
Alors justement, je ne vais pas l'aborder, c'est un peu ça, le paradoxe, parce
le
que
paradoxe.
Vous avez vu que l'actualité était quand même assez vaste aujourd'hui, et donc je donne rendez-vous aux auditeurs pour une prochaine chronique, fin octobre ou plus tard, en fonction de l'actualité, car je me rends compte qu'à force d'évoquer ponctuellement toutes ces missions, comme Gaïa, Hipparcos, Juno, Rosetta, Cassini, mais j'ai déjà aussi parlé des robots martiens, des sondes Voyager, des vols habités d'Apollo, je crains d'avoir donné une image un peu trop fragmentaire et disparate de la conquête spatiale depuis ses origines. Je crois donc qu'il me faudra consacrer un peu de temps à rappeler les grandes étapes historiques et à donner une perspective un peu plus cohérente aux démarches scientifiques qui les motivent. Donc c'est un peu le teaser d'une prochaine chronique à venir.
Très bien, c'est bien noté. Allez, l'actu toujours, le ciel du mois, et pour commencer, vous allez nous parler à voûte céleste, des constellations.
Voilà, en octobre, on entrera vraiment dans le ciel de l'automne, même si celui de l'été est encore visible en début de nuit côté sud-sud-ouest, avec les trois étoiles brillantes formant ce qu'on appelle le grand triangle de l'été, un point en bas avec Altaïr de l'aigle, et les deux autres, Vega de la Lyre à droite et Deneb du Cygne à gauche, pratiquement au zénith, c'est-à-dire à la verticale au-dessus de notre tête. Et bien sûr, si on est dans un site bien noir, sans pollution lumineuse, la Voie lactée, qui passe dans le Cygne, descend le long de l'aigle pour se terminer à l'horizon entre le Sagittaire et le Scorpion. Mais assez vite, ce ciel de l'été est remplacé par le ciel de l'automne, dont la figure centrale, Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque, se dessine comme un grand carré d'étoiles brillantes quasiment vide. En début de nuit, il se présente vers le sud-est en diagonale, c'est-à-dire un angle en haut, un autre en bas. Mais au fur et à mesure de son mouvement apparent vers le sud, il se redresse dans une position horizontale, si je peux dire. C'est à partir de lui qu'on peut repérer les autres constellations de l'automne qui l'entourent. Mais comme à chaque mois, je crois que le plus simple, hein, avec ce côté visuel des constellations, c'est de renvoyer les auditeurs vers les cartes du ciel disponibles sur notre site web. Hein, donc je le redonne, www.constellationsetgalaxies.org, ou dans la rubrique astronomie, il y a la page qui s'appelle le ciel du mois et qui donne ses cartes. Alors je veux juste attirer l'attention sur deux objets situés près de Pégase. En commençant par une étoile un peu plus faible que les quatre principales qui dessinent le carré, et cette étoile se nomme 51 Pégase. C'est son repère dans un catalogue du XVIIe siècle dû à l'astronome anglais John Flamsteed. Et si on a un peu de temps, je ferai une petite parenthèse sur les noms d'étoiles.
Je vous en prie.
Dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on ne nommait qu'environ 300 étoiles les plus brillantes, comme par exemple Polaris, l'étoile polaire, ou Vega, Altaïr, Deneb, dont je viens de parler. En 1603, l'astronome allemand Johann Bayer publie un atlas des constellations basé sur les observations de Tycho Brahe, dans lesquelles il répertorie près de 1200 étoiles, en adoptant un nouveau système pour les désigner avec une lettre grecque, alpha, bêta, gamma, etc., de la plus brillante à la moins brillante de la constellation, indiquée par son génitif latin. Je crois que j'ai un latiniste en face de moi. Donc par exemple, Deneb est alpha Cygni, enfin moi je le prononce comme ça, mais c'est peut-être Cygni en latin, indiquer l'étoile la plus brillante de la constellation du Cygne. Le catalogue de Flamsteed, publié environ un siècle plus tard, comprenait, lui, plus de 2500 étoiles, donc un trop grand nombre par constellation pour continuer à leur attribuer une des 24 lettres de l'alphabet grec. Il a donc simplement numéroté en partant de la plus brillante. Donc dans ces catalogues-là, Deneb est un Cygni pour Flamsteed. Et pour être complet, hein, il est évident que les catalogues modernes qui comptent des millions d'étoiles, comme je viens de le dire, avec Hipparchos et Gaïa, sont obligés de recourir à de véritables immatriculations des étoiles. Deneb porte le numéro 102098 dans le catalogue d'Hipparchos. Pour ne pas se perdre dans toutes ces désignations dans différents catalogues, les astronomes consultent le CDS, Centre de données astronomiques de Strasbourg, qui est la référence mondiale pour la compilation de tous les catalogues astronomiques et qui est accessible en ligne gratuitement. Hein, les auditeurs peuvent y aller s'ils sont curieux. Alors j'ai vérifié hier, sur le site de CDS, pour donner une idée, Deneb ne compte pas moins de 45 désignations dans des catalogues différents.
Très bien, belle parenthèse, mais on va revenir, si vous voulez bien, à 51 Pégase. Qu'a-t-elle de si intéressant, justement, cette étoile ?
Alors visuellement, elle n'a absolument rien de remarquable. Elle est d'un éclat assez moyen, d'une couleur légèrement jaunâtre, et se situe un peu à l'extérieur du carré de Pégase, presque au milieu d'un de ses côtés. C'est celui qui est situé en haut à droite, quand Pégase, le carré, est en et de biais en début de nuit. Son intérêt, en fait, est historique. C'est autour de cette étoile qu'en 1995, une équipe a détecté la toute première exoplanète avec le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute-Provence en France. Et comme il s'agissait de deux Suisses, Michel Mayor et Didier Queulot, de l'Observatoire de Genève, le 15 décembre dernier, donc en 2015, l'Union Astronomique Internationale a décidé de baptiser cette étoile Helvétios, par référence à la Suisse, bien sûr. Donc encore un nouveau nom à mettre dans les catalogues. Le second objet dont je voulais vous parler est lui plus intéressant à observer, car c'est l'objet le plus lointain qu'on puisse percevoir à l'œil nu dans le ciel. C'est la grande galaxie d'Andromède, située à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous. Cela veut dire que la lumière qui pénètre dans notre œil ou notre télescope, si on l'observe ces jours-ci, est partie de là-bas il y a 2,5 millions d'années, soit quand nos petits ancêtres australopithèques chassaient dans la savane africaine, hein, pour fixer les idées. Pour rappel, la lumière met à peine plus de 1 seconde pour nous parvenir de la Lune et 8 minutes et demie du Soleil. Donc on voit que des millions d'années-lumière, c'est vraiment une distance énorme. Pour situer cette galaxie, bien sûr dans un ciel assez noir, loin de la forte pollution lumineuse des villes, Il faut partir du carré de Pégase, en prolongeant sa diagonale qui est à l'horizontale en début de nuit, quand le carré est oblique dans le ciel. À partir de l'étoile qui marque l'angle est, c'est-à-dire gauche du carré, on peut voir une ligne d'étoiles, et même deux qui vont en s'écartant, c'est la constellation d'Andromède, où se situe la galaxie. Pour la repérer exactement, on suit la ligne d'étoiles à partir du carré. La première étoile est décalée vers le bas, mais la suivante revient presque sur la ligne de la diagonale du carré de Pégase. À cet endroit, on bifurque à angle droit, 90 degrés vers le haut, et en cheminant, on trouve une étoile, puis une seconde, à la droite de laquelle se trouve une espèce de tache diffuse, faible et un peu floue. C'est le centre de la galaxie d'Andromède. Avec la sensibilité de nos yeux, c'est tout ce qu'on peut en voir, et c'est bien dommage, car si on pouvait percevoir son ellipse entière, comme on la voit sur des photos, elle serait énorme dans le ciel. C'est à peu près 6 fois la taille de la pleine lune dans la longueur. Donc vraiment un très gros objet. Alors c'est un des objets intéressants que nous signalons sur les cartes dans la rubrique Le ciel du mois de notre site en ligne. Donc je renvoie encore les auditeurs s'ils veulent situer la galaxie à partir des cartes. www.constellationsetgalaxies.org.
Voilà, on continue sur votre chronique. Vous allez nous parler des planètes.
Alors comme depuis le début de l'été, les plus évidentes à voir sont Mars et Saturne, toutes deux dans le Scorpion, qui sont bien visibles vers le sud-ouest en début de nuit. Alors je vois que j'ai fait une petite erreur. Saturne est encore dans le Scorpion, mais Mars maintenant est dans le Sagittaire. Elles vont progressivement se coucher de plus en plus tôt. En ce moment, c'est vers 23h30 pour Mars, et ce sera à peu près pareil à la fin octobre, car elles se déplacent vers l'est au fil des jours. Alors, je dis c'est pareil, sauf que fin octobre, il sera 22h30, car on sera passé à l'heure d'hiver. Pour Saturne, le coucher est actuellement à 22h30, et ce sera à 20h en fin octobre, l'équivalent de 21h aujourd'hui, en heure d'été. Il vaut mieux donc essayer de les observer plus tôt en début de mois et plus tôt en début de nuit. On peut voir aussi Vénus en ce moment, le soir, qui se couche rapidement dans les lueurs du crépuscule, vers 20h45, 9h moins le quart en ce moment, ce qui veut dire à peu près une heure après le coucher du soleil. Mais comme elle s'écarte de plus en plus du soleil, on pourra la voir de plus en plus tard dans le ciel le soir, vers l'ouest, jusqu'à 19h30, alors toujours en heure d'hiver, fin octobre, soit presque 2 heures après le coucher du soleil. Donc on aura plus de temps pour pouvoir la voir après le coucher.
Et dernière partie, voilà, toujours en ce qui concerne le ciel du mois, les éphémérides.
Alors, les phénomènes remarquables ce mois-ci sont, comme d'habitude, des conjonctions de planètes ou de planètes et de la Lune. Demain matin, jeudi 29 septembre, vers 6h30, on pourrait voir un très fin croissant de Lune qui sera près de Mercure. Mais ce sera difficile à observer car très bas sur l'horizon est, avant de disparaître dans les lueurs de l'aube. Le soir du lundi 3 octobre, lundi prochain, le croissant de Lune se rapproche de Vénus. Le jeudi 6, il sera près de Saturne. Le samedi 8, ce sera un quartier à ce moment-là de Lune qui se rapproche de Mars. Le mardi 11, c'est Jupiter et Mercure qui se lèveront très proches l'une de l'autre, mais très difficile à observer car ce sera seulement une heure avant le lever du soleil. Le vendredi 28, vers 6h30, le fin croissant de Lune et Jupiter se lèveront très proches l'une de l'autre. Et le samedi 29, au crépuscule, dans la soirée, jusqu'à à peu près vers 20h30, toujours en heure d'hiver à ce moment-là, soit à peu près 1h30 après le coucher du soleil, on verra Vénus à proximité de Saturne.
Très bien, merci Michel pour cette chronique numéro 25. On va rappeler quelques infos concernant constellations et les galaxies. Voilà, je me suis appliqué pour la liaison.org et puis peut-être un avant-goût de la chronique numéro 26.
Alors pour constellations et galaxies, comme je l'ai dit, pour les auditeurs et tous ceux que l'astronomie intéresse, il y a la partie astronomie avec en particulier le ciel du mois où on trouvera les cartes des constellations et des objets intéressants à observer ce mois-ci. Et disons quelque chose d'un petit peu plus détaillé concernant les éphémérides. Ici, je fais que les choses les plus visibles facilement. On trouve dans la partie planétarium toutes les informations, et je m'adresse là particulièrement aux enseignants qui peuvent nous accueillir pendant toute l'année scolaire pour savoir quelle est la taille du local pour l'installer, qu'est-ce que ça coûte, malheureusement c'est pas gratuit, l'association vit des prestations qu'elle fournit aux établissements scolaires et aux autres structures. Et puis le contenu de la séance, qu'on peut toujours d'ailleurs adapter en fonction des projets pédagogiques des uns ou des autres, c'est pas figé. Voilà. Alors pour ce qui concerne une prochaine chronique, je l'ai un petit peu dit, si j'ai pas d'actualité particulière ou autre, peut-être que la prochaine fois on fera un petit historique de la conquête spatiale et voir en quoi toutes ces sondes qu'on envoie un petit peu partout dans le système solaire, ça a une logique, c'est cohérent. Il y aura sûrement un jour d'autres sujets à traiter. C'est assez vaste, hein. Le domaine du ciel et de l'espace, je crois que c'est un peu comme une bobine de fil, on commence à tirer et plus on tire, plus on trouve de matière à développer.
Très bien, encore merci hein, Michel pour tout ce travail, hein, parce qu'il y a la passion, les compétences, mais voilà, il y a du travail hein, pour présenter ces chroniques. Donc rendez-vous le mois prochain, le dernier mercredi du mois, sauf si une actualité ferait qu'on déplacerait la date. En tout cas, merci beaucoup, à très vite.